Bonjour Amandine Marchal, merci d'être au rendez-vous ce matin avec les auditeurs de la matinale de Radio Présence. Comme Rémi vient de le rappeler, vous êtes donc égyptologue, auteur de nombreux livres en tout genre et vous avez créé récemment sur YouTube la chaîne Toutankhatube dédiée à l'égyptologie. On va parler de tout ça dans quelques instants avec vous, mais avant je voulais qu'on fasse connaissance avec vous pour les auditeurs parce que votre nom ne doit pas la tromper, vous êtes bien une authentique Toulousaine.
Ah complètement, oui oui. J'ai fait toute ma scolarité entre Ramonville et Saint-Orens.
Et alors, évidemment, la question qu'on se pose, c'est comment on attrape le virus de l'égyptologie? Est-ce que c'est en étudiant l'Égypte ancienne à l'école ou est-ce que c'est en lisant Astérix et Cléopâtre, comme nous sommes beaucoup à l'avoir fait dans nos jeunes années?
Non, en fait, avant, les programmes d'histoire étaient beaucoup plus longs. Donc j'ai vraiment eu la chance de pouvoir bien étudier la civilisation égyptienne en 6e. Et avec mon professeur d'histoire, on a fait une excursion au musée Georges Labi. On a une petite mais très jolie collection égyptienne. Et c'est vrai qu'entre les cours, les objets et la momie, parce que je pense que la momie a influencé pas mal d'enfants, j'ai décidé de devenir égyptologue.
Alors, je crois aussi que vous avez eu la chance de faire un voyage scolaire à l'époque où vous étiez en 3e ou en 2e en Égypte.
Une chance incroyable. La documentaliste du CDI, du collège, savait que voilà, l'Égypte était une vraie passion. Et en fait, j'étais en 2e quand elle a organisé un voyage pour les 3e en Égypte. Elle m'a proposé d'y participer.
Et vous étiez à l'époque à Saint-Orens déjà, hein? Vous étiez...
Et j'étais à l'époque à Saint-Orens, oui, au lycée Pierre-Paul Riquet.
Alors, est-ce que du coup, vous avez su, si je comprends bien, très rapidement que votre vocation, votre profession, ce serait d'être égyptologue? Après, encore fallait-il faire les études pour y parvenir. Est-ce que ce sont des études très longues? J'imagine que oui.
Oui, alors vous avez bien raison de dire que j'ai su très tôt. C'était vraiment une évidence pour moi. Alors, on m'avait prévenu que les études seraient longues, mais à un moment donné, ça ne compte pas quand on sait que voilà, c'est ça qu'on veut faire. Et effectivement, les études sont très longues. J'ai un bac plus 13, mais que je ne peux pas regretter parce que j'ai adoré toutes ces années d'études où j'ai appris énormément de choses.
Vous avez fait toutes ces études, c'était à Toulouse ou c'était ailleurs?
Alors j'en ai fait une grande partie à Lille, puisqu'en fait la fac de Toulouse est spécialiste en préhistoire et pas en Égypte, donc on n'a pas de bibliothèque d'égyptologie. Et en fait c'est par rapport à ma thèse, où là en fait j'étais partagée entre Lille, Paris et Toulouse, où je venais en fait au calme pour rédiger ma thèse.
Cette thèse que vous avez donc faite, thèse de doctorat en 2013, elle avait un thème assez particulier je crois.
Oui, un thème qui m'est cher, qui est les enfants d'Égypte ancienne, qui m'est cher parce qu'en fait, jusque-là, on ne s'était pas intéressé aux enfants. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques levées de boucliers d'égyptologues qui m'ont dit que c'était pas vraiment un sujet de thèse, que c'était très superficiel comme sujet de thèse. Et donc, parce que c'est les enfants, en fait, on déconsidère le sujet. Ce qui, à mon sens, c'est quand même une erreur, parce que tous les sujets sont intéressants. On n'est pas obligé de s'intéresser à tous, mais il faut au moins leur reconnaître voilà, un potentiel d'intérêt. Et je pense avoir démontré par mes travaux que l'enfant a été déconsidéré très longtemps par le milieu de l'égyptologie, qui a en fait refusé d'accorder à l'enfant égyptien la place qu'il avait vraiment, une place sociale importante, une place économique également importante, puisque les enfants, qui n'étaient pas des enfants de la noblesse ou des fonctionnaires, allaient systématiquement en fait aider les parents. Donc par exemple, les enfants des paysans allaient les aider régulièrement dans les champs, donc pour semer les graines, pour récolter les céréales, pour faire peur aux oiseaux qui voulaient picorer les tas de graines. Donc on leur demande pas forcément des choses qui vont être pénibles, mais tout ce temps où en fait les enfants vont aider les adultes, eux peuvent se concentrer sur des tâches qui vont être beaucoup plus importantes, beaucoup plus lourdes. Et donc en fait les enfants font complètement partie intégrante de l'économie égyptienne. Et plus généralement, il n'y a pas de famille sans enfants. Donc le socle de la société, c'est pas les adultes, ce sont bien les enfants.
Alors je me posais une question parce que l'histoire de l'Égypte ancienne en fait c'est très long. Hein. Ça s'étale sur près de 3000 ans et ça commence, vous me corrigerez si je dis une bêtise, en 3500 avant Jésus-Christ à peu près. Je suppose que vous êtes spécialiste d'une période plus que d'une autre. Vous n'embrassez pas toute l'histoire de l'Égypte ancienne.
Alors, en fait, on a des égyptologues qui peuvent être vraiment spécialistes d'une période. Bon, moi, j'avoue que toutes les périodes m'intéressent parce que, justement, par rapport aux documentations qui peuvent être différentes, elles ont toutes quelque chose d'intéressant à offrir. Par contre, il est vrai que si je devais avoir une période préférée, je pense que je dirais le Nouvel Empire, parce que c'est la période où on a le plus de documentation, on a énormément d'objets, on a beaucoup de tombes de particuliers, de tombes royales, on a beaucoup de textes, on a beaucoup de monuments, de sites. Donc, par rapport aux autres périodes, même si on peut encore avoir des zones d'ombre, c'est quand même une période qu'on connaît particulièrement bien.
Et qui se situe à quelle époque?
Et qui se situe, on est aux alentours d'à peu près 1580 avant Jésus-Christ.
Alors aujourd'hui, en quoi consistent vos activités d'égyptologue? Vous participez à des fouilles, je suppose.
Oui, alors en fait, il y a beaucoup effectivement d'activités. Alors c'est vrai que je dirais plus traditionnellement, le terme d'égyptologue en France va renvoyer à quelqu'un qui occupe plutôt un poste à l'université, comme maître de conférence ou comme professeur, ou au CNRS, comme chercheur, éventuellement aussi comme conservateur de musée. Par exemple, les personnes qui sont au Louvre, au département des antiquités égyptiennes, sont également des égyptologues. Moi, j'ai choisi une quatrième voie, qui est celle de, en fait, de me faire plaisir au quotidien, en faisant toutes sortes de choses et pas en me limitant à une ou deux activités, notamment parce que pour moi, c'est très important. C'est un plaisir, mais c'est aussi un devoir, de transmettre, de faire de la vulgarisation scientifique accessible à tout le monde. Donc, bien sûr, il y a les fouilles, il y a aussi des livres pour enfants, des livres pour adultes, il y a des articles que je publie de manière très scientifique dans des revues anglaises et américaines et dont je fais en fait des versions plus accessibles au grand public pour des magazines français. Il y a des interventions en école, il y a des conférences pour adultes, il y a des visites guidées au musée Georges Labine notamment. Il y a depuis peu des collaborations à des documentaires français, comme La science en grand format ou Secrets d'histoire. Et encore plus récemment, on m'a aussi proposé de faire des interventions à l'occasion de voyages en Égypte. Donc vous voyez, finalement, un égyptologue peut faire beaucoup de choses.
Alors, j'en viens à votre activité de vulgarisation, et d'ailleurs, je crois que vous êtes une des rares égyptologues en France à faire de la vulgarisation auprès du grand public, qu'il soit jeune ou moins jeune. Et donc, vous le faites à travers deux activités, en fait, donc la publication de livres que vous venez d'évoquer, et parmi lesquels il y en a qui sont vraiment destinés à la jeunesse.
Oui, alors effectivement, on est deux, ce qui est vraiment très dommage. Il y a Florence Meruéjol qui fait ça depuis plusieurs années. Il y a également moi. On n'est pas toujours forcément très très bien considérés par nos collègues égyptologues, parce que c'est vrai que moi je me suis entendu dire régulièrement quand j'étais à la fac que les vrais égyptologues écrivent pour l'élite, qu'ils ne perdent pas du temps à écrire notamment pour des enfants, qu'on est raté si on écrit pour des enfants. Donc voilà, vous parlez en fait à un égyptologue qui est raté. Voilà, moi je trouve ça quand même dommage. On travaille sur des passions qui sont absolument prenantes, quoi. Moi je me lève, c'est une espèce de souffle sacré, quoi. Tous les matins, je me dis, mais c'est génial, je vais travailler. Et j'ai envie que les gens y ressentent ce plaisir-là pour eux-mêmes, pas forcément simplement que le mien. J'ai envie que les gens se disent, mais en fait, c'est super, c'est intéressant, c'est étonnant, c'est surprenant. Donc c'est vrai que cette part de transmission, voilà, je ne pourrais pas en fait l'enlever, je ne pourrais pas l'enlever de mon métier.
Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, ceux qui regardent les programmes de France Télévisions vous ont vu intervenir en tant qu'expert dans des émissions télévisées comme Secret d'Histoire. C'était un numéro consacré à Ramsès II. Et puis donc, récemment, vous avez créé la chaîne Tout en Katub sur YouTube. Quel est le concept de cette chaîne et des vidéos que vous y publiez?
Alors en fait, je me suis rendu compte, bon, sur le tard, parce que c'est vrai que moi je vais plutôt sur YouTube pour la musique, qu'il y avait des personnes qui cherchaient du contenu scientifique sur YouTube. Et c'est vrai que je me dis, il y a quand même des gens qui n'aiment pas lire, qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des livres, qui n'ont pas forcément la place non plus de les stocker, ou qui n'ont pas forcément envie d'acheter un livre qu'ils vont lire une seule fois et qui, voilà, ensuite va traîner dans un coin. Et donc ces personnes-là vont de façon presque par réflexe chercher donc des informations sur enfin par des vidéos. Et c'est vrai qu'en regardant un petit peu ce qui se passait sur YouTube, j'étais assez bon, surprise, pas dans le bon sens du terme, bien évidemment. Très contrariée aussi, parce que bon, c'est pas un scoop, hein. L'Égypte est un vrai fantasme, donc on a un peu tout et n'importe quoi, mais c'est vrai que bah, sur YouTube, on a beaucoup de gens qui finalement se lâchent, on n'a pas de contrôle finalement de qualité scientifique. Et c'est très ennuyeux, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont dans la croyance, effectivement, qui veulent croire que les extraterrestres ont construit les pyramides, qu'il y a des mystères à tout bout de champ, que les Égyptiens cachaient beaucoup de choses. Et puis il y a vraiment des personnes qui sont en quête de vraies informations. Et ces personnes-là n'ont pas forcément, et c'est normal, le recul pour pouvoir en fait estimer la qualité de ce qu'on leur propose. Et donc en fait, voilà, j'ai décidé avec Hubert Evin, qui est en fait le producteur et le réalisateur de la chaîne, qui est par ailleurs un célèbre compositeur de musique de film. On a décidé en fait de mettre sur pied une chaîne, donc Tout en Catube, pour justement proposer en fait des sujets aux gens. Alors sur des formats assez courts, on est sur du format de 4 minutes et demie, 5 minutes et demie à peu près, avec toujours des thématiques précises, parce que moi mon métier c'est quand même égyptologue, donc le but c'est vraiment d'aller au fond des choses, d'apporter vraiment des connaissances et de les rendre accessibles auprès des gens. Donc en fait on va proposer toutes sortes de sujets. Le premier qui est paru il y a 3 mois posait une question assez déroutante, effectivement, les momies égyptiennes peuvent-elles exploser? La réponse est oui. Ce n'est pas un poisson d'avril. C'est une vraie question sérieuse et donc on l'explique justement dans la vidéo. Ensuite, on s'est intéressé à la momie de Toutankhamon. On parle souvent et un peu trop à tort et à travers des mystères de l'Égypte ancienne. Des mystères, il y en a. On a vraiment de vrais mystères pour le coup. Et en général, c'est pas vraiment ce que l'on met en avant. Et la momie de Toutankhamon en est un parfait exemple. En fait, on a beaucoup de choses très 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 bizarres qu'on a relevées sur cette momie. Et à la limite, séparément, on pourrait arriver à trouver des débuts d'explication, mais dans leur ensemble, ça n'est pas du tout cohérent. Donc ça reste encore très mystérieux pour les égyptologues. Donc le but c'était aussi de l'expliquer, de le montrer. Et là, il y a un petit mot de ça, on a proposé une vidéo, alors très polémique.
Ah oui, j'ai
Non,
vu
le
ça
chat
sur
n'était
le
pas
chat.
sacré.
Ouais, le chat.
Non, le chat n'était pas sacré en Égypte ancienne. Et en fait, le but de la vidéo, c'est de montrer que quand on fait trop de généralités, on finit par raconter en fait des erreurs. Ce qui est le but en fait donc de cette vidéo, c'est de montrer que le chat a pu être sacré, mais en fait sur une période qui est tellement restreinte et pour l'instant sur seulement 2 sites en Égypte, qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas continuer à affirmer que le chat était sacré. Et donc là, dans quelques jours, on vous proposera une vidéo sur une autre thématique avec cette question: pourquoi l'art égyptien ressemble-t-il à du Picasso en mieux? Alors bien sûr, le en mieux est entre parenthèses, ça n'engage que moi.
C'est un peu provocateur aussi, comme sujet,
Bon, le but
comme
c'est aussi voilà de
présentation en tout
faire
cas.
réagir les gens, mais de façon positive, de susciter de la curiosité et puis voilà de leur montrer qu'on peut vraiment. En fait, l'Égypte est d'une telle richesse que c'est ça que je veux montrer aux gens, qu'en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas de mystère, d'énigmes, de secrets ou de malédictions à tout bout de champ que ça ne va pas intéresser les gens. Au contraire, on a vraiment des sujets qui sont très chouettes. Et là, par exemple, le but, c'est d'expliquer en fait que l'art égyptien utilise beaucoup de codes. Et en fait, si on ne les connaît pas, soit on ne comprend pas, soit on va mal comprendre, on va mal interpréter ce qu'on a sous les yeux. Et en fait, c'est des codes qui sont vraiment tellement logiques et donc simples à comprendre qu'une fois qu'on les connaît, ben, peu importe que ce soit à la télévision, dans un musée, en Égypte, on comprendra ce que les Égyptiens ont voulu faire passer comme message.
Eh bien, vous en parlez avec beaucoup de passion, une passion qu'on retrouve dans vos vidéos et dans toutes vos publications, ça je peux le confirmer. C'est vraiment très très intéressant à chaque fois. Il me reste à vous remercier, Amandine Marchal, d'avoir été au rendez-vous et je vais vous souhaiter un bon réveillon, une excellente année 2020 et beaucoup de réussite dans tous vos projets. On a vu que vous n'en manquiez pas. Je rappelle donc les vidéos de votre chaîne Tout en Catube à regarder sur YouTube. Et puis si on veut se tenir informé de vos publications, on peut consulter votre site internet www.amandinemarchal.vixsite.com.